Philosophie du vivant, Père Philippe, 5 janvier 1983, Rimaud.
Continuons ces réflexions philosophiques qui demanderaient d'être complétées, vous voyez ça, on fera peut-être un jour, mais qui demanderaient d'être complétées par la science biologique d'aujourd'hui. Quand il s'agit du point de vue proprement de la vie végétative, alors je n'ose pas trop entrer dans ce domaine-là. Je le ferai avec les biologistes. On le fera un jour, parce qu'il faut le faire. Mais je ne m'étends pas, c'est pas la peine d'émettre des opinions dans ce domaine-là. Il faut beaucoup plus un dialogue. On pourrait, du reste, une fois, genre séminaire, je dis pas nécessairement le cours, mais peut-être remplacer le cours par un espèce de dialogue où le philosophe interrogerait le biologiste et le biologiste interrogerait le philosophe. Alors on aurait comme ça une possibilité de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus. Parce que moi, à chaque fois que j'interroge des biologistes dans ce domaine-là, je l'ai fait plus d'une fois, ça reste court, hein. Ça reste court parce que c'est le domaine des dispositions du côté de la cause matérielle. Qu'est-ce que c'est qu'exactement la nutrition, l'assimilation au niveau biologique? C'est ça qu'on doit se poser la question. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment un biologiste définirait-il l'assimilation biologique? Je demande à notre cher frère Damien. S'il y avait sœur Damienne, je lui demanderais là, parce qu'alors il y aura un dialogue entre frère Damien et sœur Damienne. Alors ce serait merveilleux, parce que tous les deux, n'est-ce pas, sont des médecins et qui cherchent le point de vue philosophique. C'est ça qui est intéressant, parce que quand il s'agit uniquement de médecins qui ne cherchent pas le point de vue biologique, c'est très court. Qui ne cherchent pas le point de vue philosophique, c'est très court. Mais quand un médecin a le sens, quand quelqu'un qui a fait ses études au niveau biologique a le sens qu'il doit y avoir un complément du côté philosophique, alors c'est possible. Vous voyez, c'est toujours la question de l'âme. Je sais bien qu'il y a d'autres médecins ici, mais je demande ceux qui sortent directement du laboratoire. C'est là, encore tout vrai. J'aimerais, si vous y pensez, pas tout de suite maintenant, mais de me donner ces définitions. On essaierait de voir un peu plus un peu plus de précision, si on peut. Donc, je vous disais, la vie biologique au plan philosophique. Donc, je me place au plan philosophique, en voyant qu'il y aurait un complément à donner au niveau proprement biologique, qui serait de l'ordre de la disposition, de l'ordre des conditions dans lesquelles l'assimilation peut se faire, et surtout là où l'assimilation ne se fait plus. C'est très curieux parce que l'aspect négatif est celui qu'on connaît le mieux. On sait qu'il y a des conditions. On sait très bien. Quand les gens sont malades, il leur faut des régimes. Le bois n'a pas besoin de régime pour assimiler. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup le bois à cause de ça. C'est que le bois, il prend son petit lapin. Il le digère à sa manière. Hein. J'avais un ami qui avait un boa comme ça chez lui. J'ai jamais été le voir. Hein. Il avait un boa chez lui. Dans sa piole, il y avait un boa. Alors il fallait lui donner un petit lapin toutes les semaines. Hein. Comme ça, le boa était tranquille. Je ne sais pas ce que ça représentait psychologiquement, n'est-ce pas? L'amour d'amitié avec un boa, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Mais vraiment, il avait un boa. Il vivait avec. Et en plus, ce petit lapin, qui était le bien commun, n'est-ce pas? Du bois et celui qui vivait avec les deux. Alors, au point de vue philosophique, on voit que les opérations de la vie végétative montrent que le vivant, c'est avant tout celui qui assimile une réalité extérieure à lui et qui devient immanente. Et ça, c'est le propre du vivant. Alors, ça reste un mystère hein, pour nous. Comment se fait-il qu'un être est capable de faire qu'une réalité qui est extérieure à lui devienne lui? ça la chose la plus invraisemblable. Ça montre, voyez, une supériorité. Pour moi, c'est le signe de la supériorité et donc du côté irréductible du vivant à l'égard du monde physique. Parce que le vivant peut faire qu'une réalité qui est extérieure à lui, dans le monde physique, on est dans le monde de l'extériorité, puisqu'on est dans le monde de la quantité. Et alors c'est la victoire de la vie sur la quantité, ça. Et on peut le dire philosophiquement, c'est la victoire de la vie sur la quantité, parce que la quantité extériorise. Tandis qu'au contraire, le propre de la simulation, c'est de faire que quelque chose qui est extérieur au point de départ devient immanent. Alors, la vie apparaît dans cette victoire de l'immanence du vivant sur le milieu dans lequel il est. Bon, cette victoire présuppose donc un degré de vie supérieur. Le degré de vie supérieur par rapport au degré de vie inférieur peut justement faire quelque chose qui s'unifie alors que dans le degré de vie inférieur, c'est extérieur. Il y a des contraires qui s'unifient grâce au mouvement immanent du vivant. Et la vie apparaît donc, parce que c'est là où elle apparaît le premier lieu, que vous preniez la respiration ou la nutrition. C'est plus éloquent pour la nutrition. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est le monde extérieur qui devient... Alors c'est plus subtil pour la respiration. Mais ben, c'est du reste pour ça que c'est plus intéressant d'une certaine manière au point de vue philosophique. Mais au point de vue de la manifestation, la nutrition le montre mieux. La victoire du vivant, alors du vivant, à travers une puissance vitale. Et c'est là où nous arrivons à analyser. Il faut analyser ce que c'est que la nutrition philosophiquement. Et analyser ce que c'est que la nutrition au point de vue philosophique, c'est de constater qu'au point de départ, il y a extériorité entre l'aliment et le vivant. Et quand le vivant assimile, il y a intériorité. Il y a une intériorité qui se fait de telle manière que l'aliment devient le vivant. Et donc vous êtes dans une immanence substantielle. C'est ça qui est de si extraordinaire dans le point de vue de la nutrition. Et ça c'est très important pour nous. Vous comprenez très bien. L'analogie qu'on prend pour l'Eucharistie. Alors si on ne réfléchit plus du tout sur la nutrition, on ne comprend plus du tout. Et je suis persuadé qu'on a oublié de regarder le mystère de la transsubstantiation de cette manière-là. C'était tellement plus facile. Parce que quand on reste au milieu de la transsubstantiation, vous voyez, les gens s'irritent, s'opposent. Regardez tout simplement l'assimilation. L'assimilation est une opération substantielle. Ce n'est pas une opération substantielle dans le sens naturel, dans le sens radical. Ce n'est pas une opération qui est secondaire, c'est une opération fondamentale pour le vivant. Puisque une réalité physique, naturellement extérieure au vivant, va devenir le vivant lui-même, dans une unité substantielle. Donc au terme d'une unité substantielle. Alors, si Dieu prend pour nous faire comprendre son amour, c'est ça, c'est l'éducation de Dieu, c'est la pédagogie de Dieu. Dieu n'est pas changé par l'Eucharistie, c'est nous qui sommes changés. Donc c'est une pédagogie divine. C'est Dieu dans sa sagesse qui fait ça. Si Dieu dans sa sagesse se sert de la nutrition pour nous faire comprendre son amour, c'est pour nous faire comprendre que de fait, c'est un amour substantiel qui se communique à nous. Ce n'est plus un amour uniquement intentionnel. C'est un amour substantiel qui va nous transformer dans le Christ, dans une unité substantielle de vie. Autrement, le point de vue du langage du Christ en parlant du pain de vie serait mensonger. Si ce langage est vrai, il va jusque-là. Alors à ce moment-là, je n'ai plus besoin de dire transsubstantiation, vous voyez ? J'ai plus besoin. Le mot transsubstantiation est dépassé par la réalité elle-même que nous donne l'Écriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Ça c'est. Alors regardez les conditions de la nourriture. Les conditions de la nourriture impliquent une assimilation qui est une assimilation substantielle. Autrement, ce n'est pas une nourriture. Une nourriture n'est une nourriture que dans une assimilation substantielle. Parce qu'une nourriture qui n'aboutirait pas à l'assimilation substantielle ne serait pas une nourriture. Il faudrait simplement s'amuser. On dit ça dans un langage très 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 abusant, n'est-ce pas? On voit très bien. C'est quelque chose qui est uniquement là. Très bien, bon. On vous donne ça pour faire passer votre appétit. Hein. Alors faire passer votre appétit, c'est très très bien. Mais c'est pas ça la nourriture, hein. C'est le beefsteak. On en a besoin. On a besoin de quelque chose. Autrement, c'est uniquement quelque chose qui fait que on va oublier qu'on a faim. C'est pas ça, c'est pas faire oublier qu'on a faim. Parce que oublier qu'on a faim, c'est quand même quelque chose de mensonger. Tandis qu'au contraire, la vraie nourriture, c'est une assimilation substantielle. Je crois que c'est ça qu'on doit regarder au point de vue philosophique. Et vous voyez, là, le savant ne peut rien dire. Parce qu'on touche la substance. Et dès qu'on touche la substance, ça c'est le philosophe. Assimilation substantielle, c'est ça le point de vue de la nutrition. C'est vrai au point de vue de la respiration, et c'est vrai au point de vue de la nutrition. Assimilation substantielle. Le vivant, parce qu'il se nourrit et parce qu'il respire, fait que le monde extérieur devient immanent à sa propre substance de vivant. Comment se fait cela? Comment se fait cela? Je ne dis pas ce qu'est l'assimilation. L'assimilation, c'est une unité substantielle de deux réalités qui, au point de départ, sont extérieures, s'intériorisent et s'unifient. Oui. Alors, pour expliquer, on va regarder le comment après. Pour expliquer donc cette assimilation dont le terme est le vivant. Et c'est en ce sens-là que je dis assimilation substantielle. Vous savez bien que toute opération se qualifie en fonction de son terme. Or, il est bien évident que l'assimilation n'est pas pour l'aliment. Comme je t'aime, vous caressez la bouteille, comme je t'aime, je te bois. Alors c'est très bien, mais c'est pas pour la bouteille, c'est bien évident, parce qu'elle se vide, dans la mesure où, donc, elle disparaît. C'est comme l'aliment et le beefsteak. Donc, c'est pas pour l'aliment. Le propre de l'assimilation substantielle, c'est pour le vivant. Donc l'aliment est tout entier tourné vers le vivant. Il est pour le vivant. Il fait que ces deux réalités, le vivant et l'aliment, au terme deviennent un. La diade, la dualité devient un. C'est ce point de vue. Et ça se termine au vivant dans sa réalité substantielle. Donc c'est bien une opération substantielle. Elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on dira que c'est une opération fondamentale. Et c'est très important de voir ça. Opération fondamentale, opération vivante fondamentale. Le vivant ne peut vivre que dans la mesure où il se nourrit. Le jour où il ne se nourrit plus, il dépérit. Ben, il continuera à respirer, donc ça pourra encore continuer. Puis il continuera, vous savez, même quand il fait la grève de la faim. Vous savez, ce brave vietnamien qui avait fait la grève de la faim, c'était à Fribourg. Il était étudiant à Fribourg, c'était un des bons étudiants merveilleux, étonnants, qui était venu au seul choix. Et puis quand je suis reparti au seul choix, il m'a suivi à Fribourg. Il venait pour faire la synthèse de la culture orientale et occidentale. Il avait enseigné longuement le chinois au Vietnam. Et il était venu vraiment dans ce désir-là. Un beau jour, il disparaît. Et puis j'apprends dans le journal qu'il fait la grève de la faim en face de l'endroit où il y avait les discussions, c'est au moment de la guerre du Vietnam. Alors des discussions pour savoir si la paix allait y avoir dans telles conditions. Alors il avait dressé sa tente là, en face. C'est évidemment quelque chose que le palais fédéral n'avait pas prévu et que surtout la police fédérale n'avait pas prévu. C'était pas dans les casiers. Donc c'était quelque chose d'anormal. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au bout de 18 jours qu'il était là, la police est venue en lui disant que vous n'avez pas le droit de faire la grève de la faim. Elle dit, qu'est-ce qui m'interdit de faire la grève de la faim? Alors il n'y a évidemment rien. Il voulait faire la grève de la faim. Il avait fait la grève de la faim dans un but très net, il avait emporté sa Bible. Il n'était pas chrétien, il était bouddhiste. Il avait emporté sa Bible. Alors au bout de 15 jours, la police a envoyé l'aumônier, les étudiants. C'est lui qui va raconter ça. Hein, la police a envoyé l'aumônier, que je connaissais du reste. Alors l'aumônier lui a dit, Qu'est-ce que vous faites? Je fais la grève de la faim pour mon pays, pour que la guerre cesse, pour que la guerre s'arrête. Et puis, il a demandé tout de suite, donnez-moi le baptême. Je désire recevoir le baptême. Je suis bouddhiste, mais je désire recevoir le baptême. Et on me dit, mais comment voulez-vous que je vous donne le baptême, puisque vous faites la grève de la faim? Je ne peux pas. Alors lui, quand il m'a répété ça, il dit, j'espère que si j'avais été vous, vous m'auriez donné le baptême. C'est joli comme dialogue philosophique et spirituel, là. Et alors, trois semaines après, c'était toujours 8 jours, il fallait 8 jours de réflexion entre deux, avant une délibération, vous comprenez. 8 jours après, trois semaines, exactement, on est venu l'emporter, et on l'a conduit dans l'hôpital psychiatrique. On lui a donné une petite cellule en lui disant, continuez votre grève de la faim là, si vous voulez, à une condition, un verre de jus de fruits tous les jours. Comme ça, vous ne mourrez pas et vous continuerez votre jeûne jusqu'au bout. Alors, j'étais dans cette étape, je ne voulais pas faire l'esclandre. Et quand j'avais vu, on a parlé de lui à partir de ce moment-là, alors j'ai été le trouver, j'ai eu beaucoup de peine à passer, je suis passé à travers toutes les frontières, on avait une seule peur que je venais comme journaliste faire un article dessus, vous comprenez. Alors je dis non, je ne ferai pas d'article. Vous promettez de pas faire d'article, je ne ferai pas d'article. Alors vous pouvez le voir, puisque vous le connaissez, vous êtes son professeur, très bien. Alors il était là, dans cette chambre. Alors, première chose, ça je n'oublierai jamais, première chose, père, excusez-moi de ne pas assister à vos cours. Extraordinaire. Excusez-moi, vous l'avez vu, je suis parti sans rien vous dire et je n'ai pas pu vous écrire et vous dire que je n'assistais pas à vos cours. Vous comprenez pourquoi je suis là? Je comprends très bien. Alors il m'a tout expliqué. Il m'a dit, je suis chrétien de cœur. J'ai pris la Bible et j'ai fait la grève de la faim pour prier. Et c'était pour prier. Et j'avais qu'un seul désir, c'est de prier. Et j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Il était beau, du reste, il était merveilleux. Dans sa chambre, on est bien à Genève, le fait qu'on a su qu'il était là, on avait envoyé des fleurs partout, partout, partout. Alors il y avait des fleurs immondes, cette petite chambre immondée de fleurs, absolument. Et lui parle. Dans sa chemise d'hôpital, et c'était beau à voir, c'était extraordinaire, c'était grand, il y avait des choses étonnantes. La grève de la faim, vous voyez bien ce que ça veut dire. Hein? Alors, il ne peut vivre que s'il respire avec un peu de jus de fruits. Enfin, ça suffit pour que le vivant continue dans sa faiblesse. Alors, le milieu vital, hein? Le milieu. Bon. Alors, à cause de cette assimilation substantielle, c'est des exemples comme ça qui font comprendre ce que c'est que se nourrir. Parce que notre jeune est faiblard à côté de ça. Hein. Alors, ça ne fait pas bien comprendre. Tandis que là, ça fait comprendre. C'est une manière de protester du vivant. Il faut bien dire, du vivant. Hein. C'est pas unique, c'est pas le point de vue du spirituel. Hein. C'est le vivant qui proteste. En tant que vivant, il dit, voilà, je veux protester. C'est ça la grève de la faim. Alors elle est consciente chez le vivant, mais elle est au niveau biologique. Et c'est pour ça qu'elle a cette force tout à fait particulière, parce qu'elle ne veut pas le suicide. Elle ne veut pas le suicide, elle veut simplement protester. C'est un suicide pas direct. Mais c'est une protestation qui veut dire, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas d'armes, voilà comment je proteste. Je proteste en pacifique. Oui, l'arme que nous avons, que vivant a, de refuser l'aliment. C'est très curieux, hein? Très intéressant de voir ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de l'objecteur de conscience. Hein? L'objecteur de conscience poussé à l'extrême, jusqu'au bout. C'est celui-là qui refuse cet aliment. Donc, il refuse le milieu. Il considère que le milieu est contaminé. Il ne veut pas. Il veut cela. Alors, vous avez donc assimilation substantielle pour le vivant. Que ça se termine au vivant. Pour expliquer cette assimilation substantielle, si je l'analyse, qu'est-ce que je pose? Je pose une dynamique. Donc, une puissance. Une puissance propre au vivant de vie végétative. Le vivant de vie végétative a cette capacité, puissance veut dire capacité, cette capacité de se servir de l'oxygène, de se servir du milieu, de l'atmosphère, du milieu ambiant, et de se servir de l'aliment pour son propre bien. Vous voyez, l'égocentrisme. C'est l'égocentrisme du vivant. Il est farouche, disons. Hein. Ça, c'est évident. Et c'est propre du vivant. Alors, c'est dans une immanence, l'immanence la plus fondamentale, qu'elle se termine à la substance. Elle se termine à la substance du vivant. Et donc, il faut poser cette puissance, cette capacité de recevoir la dimanche. Je pousse l'analyse, hein. Ça, c'est facile à comprendre. L'aliment, par rapport à cette puissance, est-ce que, puisqu'Aristote fait l'analogie avec l'objet, toute faculté vitale a un objet qui spécifie son opération. Quand je regarde les opérations de connaissance que nous allons voir ensuite, Aristote commence son analyse par la nutrition. C'est pas pour rien, mais c'est intéressant à voir ça. Eh bien, dans cette assimilation vitale, quel est le rôle de l'aliment? Est-ce que l'aliment spécifie l'assimilation? Que nous avions posé comme question déjà. Est-ce que l'aliment spécifie l'assimilation? Autrement dit, l'assimilation est-elle différente en fonction de l'aliment? L'aliment conditionne, je ne crois pas qu'on puisse dire plus, il conditionne de manière nécessaire, mais il ne spécifie pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre les transferts qu'on peut faire, vous comprenez? À ce niveau-là, il y a des petits transferts qui vont très loin. N'est-ce pas? Vous pouvez changer le régime alimentaire. N'est-ce pas? Ça conditionne, ça vous met dans des positions très très différentes d'un côté comme de l'autre. Parce que ça conditionne, ça ne spécifie pas. Donc, qu'est-ce qui spécifie? C'est la dynamique. C'est la puissance. C'est la puissance qui est une puissance active. Elle est une puissance active puisqu'elle détermine. Et puis qu'elle agit sur l'aliment qui est comme la matière. Donc, l'analogie avec l'objet, c'est par le point de vue matériel. L'aliment est matière de l'assimilation. Or, la matière joue toujours le rôle de condition. La matière, ce n'est pas une matière brute, hein. C'est une matière très évoluée. Plus le vivant est évolué, plus il se fait des petits plats. Hein. Ça, c'est bien évident. Donc, plus l'aliment est évolué, tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'un animal sauvage, il broute tout simplement. La salade, qui est le point de départ, pour vous mettre un peu très bien. Alors, l'aliment, l'herbe, hein, le bois. Alors, on broute. C'est tout simplement l'aliment comme tel, c'est la matière, mais c'est une matière disposée. Enfin, il peut y avoir une matière, le cuit et le cru. Ça fait partie de l'aliment, ça me prend comme disposition. Parce que immédiatement, vous avez des aliments qui sont cuits, et donc qui sont pas. Quand on vous sert des pommes de terre non cuites, par exemple, c'est ça, alors vous trouvez le cru. Et là, c'est le cru, ça. Alors c'est le cru qui vient pour l'aliment. Vous apercevez que c'est autre chose, c'est un autre goût. Et je ne dis pas que l'assimilation se fait aussi bien, ça c'est différent, ça dépend des estomacs. Alors vous avez donc la matière qui dispose, qui est de l'ordre de la disposition et du conditionnement, mais qui n'est pas spécificateur. Qu'est-ce qui spécifie? C'est la puissance active. La puissance active détermine. C'est pour ça quand le vivant est fatigué, la puissance active est moins active. Ça c'est sûr. Quand il commence à être débile, c'est toujours par là que ça se voit. Hein. Le sommeil et l'aliment, vous avez bien, ça, c'est catégorique. Hein. Vous avez encore beaucoup d'appétit, votre puissance active est encore active. N'est-ce pas? Vous arrivez à, surtout si vous assimilez bien. Parce que si vous mangez énormément, et que, ça, c'est autre chose. Hein. C'est différent. Il peut y avoir une boulimie. Alors, imaginative, l'imagination va jusque-là. C'est extraordinaire. Et arrive à transformer et à faire qu'il y a des transformations. Ça, on le verra après. Mais hein. On pose maintenant puissance active. C'est-à-dire puissance déterminante. Quand je dis active, c'est puissance déterminante. Là, vous avez, et c'est très important à reconnaître, vous avez au niveau de cette dynamis de l'opération de la nutrition, vous avez ce qu'on pourrait appeler la subjectivité transcendantale. C'est intéressant, première analogie du vivant. La subjectivité, regardez exactement les caractères de la subjectivité transcendantale. Vous verrez que c'est exactement celle de la puissance active, nutritive. Elle a ses catégories. C'est évident qu'elle a ses catégories. Le vieux cheval, l'homme, le bois. C'est pas les mêmes catégories, hein, comme puissance active. Il y a des catégories différentes qui font cette puissance active et déterminée de façon différente. Donc, vous êtes bien en face de la subjectivité transcendantale du vivant qui domine l'aliment. Le vivant domine, il a besoin d'aliment, il a besoin de cette matière, il a besoin du nous-mêmes, hein, il a besoin de cette matière qu'il ne connaît pas du reste, qu'il connaît en fonction de son expérience. Il y a telle matière, que tel aliment que je n'aime pas, je ne le digère pas. Si votre puissance active était plus active et plus instinctive, vous auriez discerné avant ce que c'était mauvais. Et certains le sentent, grâce à leur pendule. Alors la puissance active déterminante vient se perfectionner grâce au pendule, vous voyez, de l'extérieur. Je ne sais pas ce que ce serait dans la subjectivité transcendantale. C'est intéressant à voir, les analoguer, n'est-ce pas, de voir comment, de l'extérieur, il peut y avoir une détermination en disant que cette puissance active déterminante n'arrive pas à se saisir en termes d'aliments. Et je fais une sélection. Je fais une sélection au bout d'un certain temps. Il y a des aliments qui sont bons pour moi, des aliments qui sont mauvais pour moi, surtout si on veut à peine les digérer, n'est-ce pas. C'est-à-dire si l'assimilation se fait de façon pénible. C'est ça la digestion. Post-chiboum, on a envie de dormir. Hein? Alors c'est ça, on est moins spéculatif. Alors c'est pour ça que sur l'assimilation qui s'en fait, ça s'appelle le temps. N'est-ce pas? Parce qu'alors là, on comprend, il y a un exemple vécu qui font qu'on comprend que la digestion est pénible. La digestion est pénible en fonction des conditions du vivant. Alors je peux très bien préciser ces conditions, alors c'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui se fait dans cette assimilation? C'est que dans l'aliment, il y a un discernement qui se fait par puissance active, qui fait que certaines choses sont assimilées, d'autres choses ne sont pas assimilées. Il y a des éléments nocifs et des éléments qui ne sont pas nocifs. Parce que normalement, l'assiette peut vivre. Mais ça, je ne fais pas le discernement au couteau en disant, voilà, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Non, le discernement se fait instinctivement, de façon très mystérieuse. C'est vraiment la puissance active déterminante qui détermine ce qui est bon chez un être normal. Chez un être fatigué, ça ne se fait plus. Alors il assimilera des éléments nocifs. Et il assimilera des éléments nocifs qui, au bout d'un certain temps, pourront conduire même à un empoisonnement. Tandis qu'au contraire, chez un être normal, en pleine santé, le discernement se fait instinctivement. Et il y a dans l'aliment qu'on digère. Il y a une gestation d'aliments. Et la gestation d'aliments fait qu'à ce moment-là, il y a des discernements qui se font, des choses qui font qu'on assimile et des choses qu'on laisse tomber, qu'on laisse retomber, qui ne sont pas assimilables. C'est extraordinaire de voir la subtilité, la puissance des âmes. Je dis, c'est vraiment la subjectivité transcendantale du vivant, qui à ce moment-là fait ce discernement d'une manière active à travers la digestion. C'est à travers la digestion que se fait cette assimilation substantielle. Donc le discernement dans l'aliment, qui est assimilable, ce qui n'est pas assimilable. Je ne peux pas dire d'avance. Une fois que c'est assimilé, je peux dire, ah, telle chose est assimilable. Je peux retrouver, nécessairement dans l'aliment, les éléments assimilables, les éléments non assimilables. Mais je le fais après coup. Le discernement, c'est après coup. On peut projeter après, hein, une fois qu'on a connu les lois des choses assimilables et des choses non assimilables, je peux dire d'avance. C'est-à-dire, attention, cet aliment a des tas d'éléments nocifs qui vont être quelque chose de très dangereux. Je peux le faire, mais au fond, c'est toujours à partir de l'expérience. C'est à partir du discernement que j'ai pu faire, à l'intérieur de cette assimilation substantielle, de ce qui est assimilable et ce qui n'est pas assimilable. Alors, c'est ça qui est très important, je crois, retenir. Parce que c'est ça qui m'intéresse au plan philosophique. C'est d'essayer de comprendre que le vivant n'est pas adéquat au monde physique. Il fait un discernement. Seconde supériorité. Je signale les supériorités du vivant par rapport au non-vivant. Les supériorités du vivant à l'égard de ce qu'il assimile et qu'il fait un discernement dans l'assimilation. Alors ça, ce sont deux supériorités qui sont très importantes. Parce que assimiler, c'est déjà une supériorité. Assimiler, c'est justement faire que ce qui est extérieur devient intérieur. Mais le discernement dans la digestion, dans la digestion, faire le discernement de ce qui est assimilable, ce qui n'est pas assimilable, alors montre
la supériorité du vivant qui, justement, instinctivement, domine. L'instinct de domination, digérer, ça c'est bien, du moins assimilé, ça n'achète un instinct de domination, je domine l'aliment et je suis capable, à travers cet aliment, en le digérant, de faire une part. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est bon pour moi, c'est évidemment l'assimilable. Ce qui est mauvais pour moi, ce qui n'est pas assimilable. Vous retrouvez exactement la même chose au point de vue de la respiration. Si vous respirez un air nocif, digérer. Ça c'est bien, du moins assimiler, ça n'achète un instinct de domination, je domine l'aliment et je suis capable, à travers cet aliment, en le digérant, de faire une part. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est bon pour moi, c'est évidemment l'assimilable. Ce qui est mauvais pour moi, ce qui n'est pas assimilable. Vous retrouvez exactement la même chose au point de vue de la respiration. Si vous respirez un air nocif, dans lequel les éléments sont trop nombreux, nocifs, les éléments de séparation ne pourront plus se faire et vous asphyxiez quelqu'un. C'est extraordinaire de voir ça, hein, voir la manière dont on peut empoisonner, asphyxier, faire que le discernement ne se fait plus. Premier analogué du vivant. Alors faites toutes les analogies par rapport à la vie intellectuelle. Exactement la même chose, hein. Normalement, la vie de l'intelligence fait un discernement entre les éléments assimilables et non assimilables, mais il arrive une situation limite dans laquelle le discernement ne fait plus. Et vous arrivez à empoisonner. Spirituellement. C'est l'histoire de la secte. C'est ça. Vous arrivez à empoisonner, vous arrivez à faire que quelqu'un n'a plus assez de vigueur intellectuelle pour rejeter. Exactement comme il n'a plus de vigueur suffisante au niveau biologique pour rejeter. Donc, vous voyez, la question de l'objet, qui est un objet matériel, c'est ça qui est extraordinaire. Le premier analogue de l'objet, c'est l'objet matériel. Ça, c'est très, très important de le rappeler. Deuxièmement, c'est très important de se rappeler que cette opération vitale se fait avec un discernement, donc dans la lutte. Toute vie et toute opération vitale se fait dans la lutte. Il y a nécessairement une lutte puisqu'il y a un rejet. On rejette dans la lutte. Et il y a assimilation. Donc il y a une lutte. Une lutte au niveau de l'opération vitale. Vous voyez, c'est pour saisir les quelques éléments fondamentaux de la vie qu'on va retrouver à tous les degrés de vie. D'une façon ou d'une autre. Donc, la cause efficiente, la cause déterminante, la finalité, la cause objective. Peut-on parler, quand il s'agit de l'aliment, peut-on parler d'une cause exemplaire? Il faut quand même se poser la question. Peut-on parler d'une cause exemplaire? Y a-t-il un aliment qui est l'aliment type? Je dis ça, c'est parce que c'est des questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'on, à propos des vaches, vous savez bien, les vaches, c'est toujours très intéressant, savoir s'il y a, le repas type de la vache. Alors, y aurait-il le repas type de l'homme? Cause exemplaire dans l'ordre de l'assimilation. Arriver à un aliment dans lequel il n'y a plus du tout de rejet, il n'y aura plus que l'assimilable, et qui serait uniquement, alors, par exemple, vous aurez la digestion qui serait très merveilleux. Pas une seule difficulté de digestion, mais l'assimilation serait tout de suite. Parce que les difficultés de la digestion, on sait très bien quand on a pris un trop bon repas. On fait le bois à ce moment-là. C'est un trop bon repas. La digestion, la séparation se fait plus difficilement. Mais c'est plus difficile. Donc, il y a un combat dans les intestins, n'est-ce pas, qui n'est pas commode, hein, et qui peut être rude à ce moment-là. Et la lutte peut aller loin. Et la lutte vous empêche évidemment d'être libre pour autre chose. Vous êtes entièrement occupé à cela. Et c'est ennuyeux. Et il vaut mieux le laisser tranquille pour que ça se fasse mieux. Alors vous voyez qu'on pourrait se demander, y a-t-il une cause exemplaire? Je laisse la question, parce que je n'ai pas le droit de la déterminer. Mais je pose la question, y a-t-il une cause exemplaire? Y aurait-il l'aliment type pour chaque individu, hein. Pas pour l'homme, parce que c'est pas l'homme qui digère, c'est l'individu qui digère, c'est le vivant. Et on digère tous de manière différente les uns des autres, hein. Alors plus ou moins rapidement, c'est des digestions qui sont plus ou moins rapides et qui se font plus ou moins bien. Et alors c'est curieux, ça fait partie de la vitalité de chacun. Ça fait partie de la vitalité de chacun. Dans la mesure où une vitalité est plus grande, évidemment la digestion se fait plus rapidement. Vitalité biologique, hein, je ne dis pas vitalité spirituelle. Est-ce que le spirituel a-t-il une influence directe sur le végétatif? Question qu'on doit se poser, que nous nous poserons au terme. Bon, alors, nous avons troisièmement la croissance. La croissance, hein, c'est l'opération suivante, je l'ai dit. Nous avons décrit la dernière fois, ici nous analysons. Nous analysons par les causes, hein, pour essayer de saisir. La croissance. Faut-il une faculté particulière pour la croissance? Question très difficile. Faut-il poser de fait une dynamis différente? Ou est-ce que la croissance, c'est tout simplement l'assimilation? C'est pas uniquement l'assimilation. Il y a une nouvelle dimension dans la croissance. Dans la croissance qui permet à l'être, tout petit, d'aller jusqu'au bout. Alors, y a-t-il une dynamis particulière avec sa prospective bien déterminée qui fait la croissance de chacun? Oui, il y a une dynamis qui est au point de départ de cette croissance organique. Évidemment, quand l'être est déjà arrivé au plateau qui n'a plus à croître du côté de son cerveau, ni du côté de son nez, ni du côté de ses yeux, etc. Alors à ce moment-là, c'est très facile à comprendre. Mais quand vous voyez tout petit être, hein, dans la période de gestation, comment ça se fait que ça évolue de cette manière régulière et qu'on peut situer exactement ce devenir de l'être, cette manière dont un être progresse normalement et qu'on peut dire à certains moments, ah, il ne progresse pas normalement, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a donc un plan initial, c'est très facile de constater, mais il faut essayer de comprendre. Il y a donc un plan initial, ça ne peut pas être autrement, dans l'âme végétative. Dans l'âme végétative, il n'y a pas que la puissance active par rapport à l'aliment. Il y a quelque chose de plus. Il y a une puissance qui a une certaine intention dans l'ordre du progrès. Très difficile à préciser. Une virtus, hein, je dis, quand je dis dynamis, pour traduire virtus, une vertu qui est déterminée, elle a un ordre préétabli. Le chiffre biologique de chaque individu, de chaque vivant, mais il est là justement, qui fait que cette dynamis cette puissance va se développer selon son rythme particulier. Le rythme particulier de l'espèce et le rythme particulier de l'individu. Alors pour l'individu au point de départ, c'est à peu près le même pour tous, hein. En gros, on peut dire que c'est en gros c'est le même, mais c'est quand même particulier pour chacun, puisque chacun en a sa taille particulière. Il n'y a pas de cause exemplaire ici. Ah, il faut à tout prix que l'espèce humaine atteigne 1m70, 1m80, 1m90. Alors ceux qui ont 1m90, regardez du haut de leur grandeur, ou pas les autres, non, vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Hein. Votre pauvre dynamis, hein, votre virtus n'a pas été jusque-là, elle a été essoufflée, tandis que la mienne a poussé. Oui, c'est très vrai. Il y en a qui poussent en longueur, il y en a qui poussent en largeur, la dynamis est différente, vous voyez. Et il y en a qui, c'est la diversité qu'on voit pour chaque individu. Il y a quand même une détermination instinctive. Quand j'ai dit détermination instinctive, c'est-à-dire justement une puissance, une faculté qui est là, qui implique un ordre, un plan organique, et qui est de se servir de l'aliment, on se sert de l'aliment pour atteindre l'organisation plénière et parfaite de chaque individu, comme vivant. Dans toute la complexité du vivant, Mais ça importe peu ici, hein, point de vue philosophique. La complexité du vivant sera très intéressante à regarder. Le développement embryonnaire, c'est palpitant de regarder ça. Et c'est très intéressant. Hein. Mais je fais au terme, pas maintenant. Parce que c'est intéressant de voir ça. Ici, ça m'avance, ça n'avance rien du tout. Je cherche les puissances, je cherche les degrés de vie. Ben, le degré de vie, évidemment, de l'homme, dès le point de départ jusqu'à la naissance, c'est là où la croissance est la plus forte. C'est là où la croissance est la plus forte. Mais cette croissance présuppose toujours l'assimilation, parce qu'elle se fait de l'intérieur. Et donc cette croissance est dépendante de l'assimilation. Si l'assimilation ne se fait plus, la croissance ne se fait plus. Donc vous retrouvez un problème analogue à l'assimilation, il faut un aliment qui vient du milieu. Et plus l'être est fragile, plus l'aliment doit lui être parfaitement comme naturel, plus l'être est fragile, et le tout petit a une fragilité unique, et plus il doit arriver alors à sa dimension organique, et pour arriver à sa dimension organique, il y a donc une dynamis qui a un plan préétabli. Et quand je dis un plan préétabli, je veux dire au plan naturel. Vous voyez, alors là, vous retrouvez la subjectivité transcendantale. Hein. C'est une subjectivité transcendantale, cette dynamis de la croissance. C'est extraordinaire. Parce que c'est vraiment la domination de l'individu par rapport à tout l'aliment qu'il reçoit. Et qu'il fait par rapport à son propre bien. Pour être parfaitement lui-même. Et pour se développer dans le sens où il doit se développer. Et pour être parfaitement lui-même. Donc vous voyez que là, nous ajoutons quelque chose de nouveau comme dynamis, cette véritable nouvelle faculté qui implique un plan de détermination antérieur au vivant. C'est admirable, du reste. Hein? Le vivant, c'est celui qui a une prospective, il sait vers quoi il va. Il le sait comme vivant, ça ne veut dire pas du tout comme conscience. Il le sait comme vivant, c'est préétabli. Il y a quelque chose de préétabli, il y a une intentionnalité préétablie. Et cette intentionnalité, on la trouve au niveau de la puissance d'assimilation, et on la trouve surtout au niveau de la puissance de croissance, pour permettre à l'individu d'atteindre sa dimension et sa taille. Et ceci, c'est propre au vivant. Troisième opération, le point de vue de la procréation, la génération. Les trois grandes opérations de la vie végétative. Alors ici, je prends aussi, évidemment, hein, du côté de l'homme en premier lieu. Et ce serait très intéressant de se rappeler ce que dit Aristote, hein, que c'est le problème de la procréation et de la génération qui nous montre le mieux le caractère spécifique de chaque vivant. Le caractère spécifique de chaque vivant est du côté de la procréation et de la génération. Pas du côté de l'assimilation, c'est commun. Ça, c'est la table commune, tout s'assimile. Du côté de la croissance, c'est déjà très différent, parce qu'il y a des dynamiques très différentes. La gestation de l'éléphant n'est pas tout à fait la même. Eh bien, ça dure assez longtemps. C'est ça. Ce qui montre bien que c'est quelque chose de très particulier. Donc c'est vraiment du côté de la procréation et du côté de la génération qu'on voit la plus grande diversité dans la vie végétative. Alors pourquoi ça? C'est un fait, hein? C'est un fait que la procréation se fait de façon extrêmement différente du côté des différents animaux. Pourquoi? Parce que la procréation correspond au niveau de la végétative à l'aspect de perfection. Cette fameuse parole qu'Aristote répète tout le temps et qu'il faut bien comprendre, seul le vivant parfait est capable d'engendrer. Seul le vivant parfait est capable d'engendrer. Et on dit le vivant en tant que vivant, il assimile. Le vivant, en tant qu'il doit grandir, il progresse, il augmente. Le vivant, arrivé à sa perfection, est capable d'engendrer. C'est pour ça que la procréation représente, dans la vie végétative, la finalité de la vie végétative. Ce pourquoi un animal vit, c'est pour procréer. Ce pourquoi un animal vit, c'est pour pouvoir procréer. C'est la finalité de la vie végétative. C'est très important de se rappeler ça. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très très important à saisir. C'est que vraiment, c'est la finalité de la vie végétative comme telle. La vie végétative demande cela. Et on comprend pourquoi. Parce que par là, la vie va être victorieuse de la corruptibilité. Cette fameuse vision d'Aristote, de Platon déjà, que l'amour est ordonné à la procréation. Parce que l'amour étant ordonné à l'immortalité, ne peut atteindre l'immortalité que par la fécondité. Et alors c'est dans le banquet, n'est-ce pas ? C'est dans le banquet où Platon donne cela, cette vision très très forte, que l'amour éros, hein, l'amour dans le sens le plus fort, le plus fondamental. Et c'est un appel à l'immortalité pour l'homme. C'est un appel à l'immortalité. Et cette immortalité, l'individu ne peut pas l'atteindre. Il ne peut donc l'atteindre que par la fécondité. Et cette immortalité, l'esprit l'atteint par la contemplation. C'est la fécondité dans l'ordre spirituel. Alors là, il y a quelque chose de très important donc à saisir. Et chez les animaux, on retrouvera quelque chose d'analogue. C'est que l'animal, lui aussi, demande la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce, c'est à sa manière l'immortalité de l'espèce. Et la survie de l'espèce réclame la fécondité. Donc c'est bien du côté de la procréation que je saisis la finalité de la vie biologique. Alors, c'est là où il faudrait saisir que lorsqu'il s'agit de la procréation, quand il s'agit de la perfection, de fait, pour l'espèce humaine, cette procréation implique toujours le mâle et la femelle, l'homme et la femme, les deux. C'est la conjonction des deux qui va expliquer la fécondité, qui va expliquer le point de vue de la possibilité de la survie. Donc, un seul individu n'est pas assez parfait. Ça a tracassé tous les anciens. On voit très bien toutes les thèses qui ont été mises là-dessus. Et on comprend très bien. C'est un gros problème au point de vue philosophique. Et c'est un problème que le philosophe doit regarder très attentivement. Comment se fait-il qu'un seul individu n'est pas source de vie pour les autres, alors que dans des vies inférieures, ça arrive. Ça arrive quand il s'agit d'une... Quand il s'agit d'une vie supérieure, alors à ce moment-là, la procréation implique deux vivants. Deux vivants dans leur complémentarité. Ils sont deux pour être source de vie. Un seul ne peut pas être source de vie. Un seul suffit pour l'assimilation. Un seul suffit pour la croissance. Il faut deux pour la perfection, pour la procréation. Parce que la procréation, justement, exige d'être source de vie. Alors, s'ils sont source de vie, il faut nécessairement qu'un seul soit complété par un autre. Parce qu'on pourrait penser, question de fait, hein, on pourrait penser autrement, mais c'est une question de fait. Et alors, le philosophe regarde la question de fait, hein, il doit essayer de comprendre. Il essaiera ensuite de porter un jugement de valeur, hein, un jugement de sagesse. Mais d'abord, il constate cela. Il constate de fait, et c'est du reste pour ça qu'il dit, c'est la perfection. Le vivant individu n'est pas assez parfait. Il manque la complémentarité de l'autre. Il faut cette complémentarité pour qu'il puisse y avoir procréation. Et c'est par la procréation, donc, qu'il va être victorieux de la corruptibilité de l'individu. Qu'il va y avoir quelque chose en lui. Et là, c'est là où le mystère devient très complexe, hein, au point de vue philosophique. C'est déjà pas commode de comprendre l'assimilation. Comment une réalité extérieure devient le vivant lui-même? Comment, dans la croissance, il y a eu ce développement?
Souvenez-vous de votre premier instant de votre vie. Souvenez-vous du premier moment où vous étiez à l'état embryonnaire. Et puis ça a grandi, et c'est devenu l'individu que vous êtes. Et vous ne savez pas comment ça s'est fait. Heureusement. Vous n'avez pas trop mélangé là-dessus, il n'y a pas eu trop de difficultés. Il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des maladies qui ont arrêté la croissance et qui ont fait tomber les cheveux un peu trop rapidement, n'est-ce pas? C'est peut-être comme ça d'arrive, ça peut se faire, n'est-ce pas? Il peut y avoir comme ça des accidents de parcours, hein, ça peut arriver, et qui font que si ces accidents de parcours sont dépassés, ça va. Mais au fond, on sait que c'est dans la lutte. La croissance se fait dans la lutte. L'assimilation se fait dans la lutte. Pas impossible autrement. Est-ce que la procréation se fait dans la lutte? Que là, on est devant l'aspect ultime. Alors, on pourrait croire, parce que ça atteint la finalité, qu'il n'y a pas de lutte. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, nous retrouvons à l'intérieur même de la procréation la lutte. Chose extraordinaire. La vie végétative apparaît toujours contemporaine à la lutte. Le vivant, c'est un lutteur. Un lutteur, ça n'a pas toujours très bonne mœurs. Hein. On sait très bien. C'est votre toit de l'homme, je vais le mettre. Hein. C'est avant tout ça. On veut le gros morceau. Et si on ne prend pas le gros morceau, on pâtit. Alors, il y a une lutte, incessante. Il y a cet égocentrisme si fort de l'assimilation. Alors, le mystère devient encore beaucoup plus complexe quand il s'agit de la procréation. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Comment se fait-il qu'un vivant puisse être source d'un autre vivant? Comment se fait-il qu'un vivant puisse être source d'un autre vivant? Comment se fait-il qu'un grain de blé puisse donner des quantités de grains de blé? Comment se fait-il que l'homme et la femme unis soient source de vie pour un autre vivant? Qui sera différent d'eux, et quelquefois même de deux vivants, il peut y avoir, et quelquefois même plus. Alors comment ça se fait ça? Vous voyez, on est devant un fait qu'on n'explique pas, mais c'est toujours la vie. La vie végétative ne peut se comprendre qu'à travers ces trois opérations. Ces trois opérations manifestent ce que c'est que l'âme végétative. L'âme végétative est non seulement ce qui informe le corps, ce qui donne au corps son intelligibilité, son organisation si complexe, cathédrale de molécules, hein, quelque chose d'extraordinaire comme complexité, mais que l'âme végétative est capable de faire que le vivant devienne source d'un autre vivant. Et qu'à partir de lui, le rythme de la vie recommence et reprend. Vous voyez, le cycle des anciens. Le cycle des anciens était commandé par la vie végétative, le temps cyclique, hein, parce qu'au fond, il y a un temps cyclique pour l'espèce. Nous, on a remplacé ça par le point de vue de l'évolution. On verra qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il faut nécessairement traiter de l'évolution, il n'y a pas moyen. Dès que je traite de la philosophie du vivant et de la vie végétative, je dois le faire. Je vois que la première opération, c'est l'assimilation. La seconde opération, c'est la croissance. Ah oui, je vois, l'évolution, c'est donc la croissance. Ça va très très bien, n'est-ce pas? C'est de l'ordre de la croissance. Oui, mais ça présuppose l'assimilation. Et la procréation, elle présuppose aussi l'assimilation. Elle présuppose aussi la croissance. Mais elle a quelque chose de nouveau. On est source d'une nouvelle vie.